Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais d'abord remercier ma collègue de m'avoir invité et la remercier doublement. D'abord parce que ça me fait plaisir d'être parmi vous, ça me rappelle d'anciens souvenirs, mais aussi parce que je crois vraiment que d'un côté, la génétique des populations et de l'autre côté, la paléontologie ont besoin de se rencontrer. Chacune de ces disciplines apportera sa contribution. Mais je crois que la contribution sera d'autant plus grande et plus fiable, si je peux me permettre ce terme, s'il y a beaucoup plus de rencontres entre les deux. Beaucoup plus. Certains d'entre vous me connaissent. J'ai l'habitude de montrer des images. Je n'ai pas changé d'avis. Je montre toujours des images. Je raconte toujours des histoires. Donc, voilà. Mais rassurez-vous, la conclusion de ma collègue et la mienne seront exactement les mêmes. Et ça, c'est rassurant pour les nombreux jeunes collègues et futurs collègues qui sont là, c'est-à-dire qu'il reste beaucoup, mais beaucoup à faire. J'ai noté au passage qu'il a été dit, Molly, vous avez dit cela, il faut beaucoup d'autres fossiles, beaucoup. Et pour trouver des fossiles, il faut aller sur le terrain. Et alors, ce qui est particulièrement surprenant, c'est qu'à l'heure actuelle, on voit de moins en moins d'équipes sur le terrain. Alors, je vous rassure, je suis là, j'ai modifié mon emploi du temps pour être là, et dans quelques jours, je serai dans le Sahara. Je n'ai pas changé d'occupation. J'essaie toujours de trouver de vieux os. Toujours. Bon. Alors, Toumaï. Ah oui, à ce propos, Toumaï, Sahelanthropus, Molly, vous avez mis comme image, et ça, alors, non. C'est une image de Bone Clones. Et Bone Clones, ce n'est pas un moulage, c'est une imitation à partir de 2D, c'est-à-dire que le Sahelanthropus de Bone Clones, il a la taille d'un cercopithèque. Toumaï, c'est celui que vous avez mis en face au Rorine. Au Rorine, on ne connaît pas le crâne. On connaît des dents, on connaît des os, on connaît mais pas le crâne. Parenthèse. Bon, je n'insiste pas sur les primates, on est donc du côté grand singe et humain. Vous savez. Alors, ça me paraît important. Darwin, en 1871, a dit que l'Afrique, c'était sûrement le berceau, notre berceau. Et tout semble indiquer qu'il avait raison. Mais il a averti, il a prévenu, il a dit « si ». Il n'y a pas de fossiles, il est sûrement inutile de spéculer sur ce sujet. Naturellement, on n'a pas écouté Darwin, c'est évident. Ça a conduit au concept bien connu de vous tous, et il s'agit de regarder dans les articles de vulgarisation. On parle toujours de chaînon manquant ou de missing link, c'est-à-dire des conceptions qui est visiblement erronée. On a voulu, à partir de là, et vous voyez ça encore, on met un chimpanzé, on met un homme actuel, et entre les deux, on met un missing link. C'est pas aussi simple, et la paléontologie a au moins montré que les choses étaient légèrement différentes. Quand je dis légèrement, c'est profondément différent. Mais vous vous rendez compte, en 1871, Darwin pensait cela déjà. Et ce n'est pas encore entré dans tous les esprits. Hein. Moi, je suis toujours surpris. Enfin, écoutez, je m'en vais. Tout le monde, tous les collègues sont en Afrique du Sud. En Afrique orientale, je m'en vais en Afrique centrale. Tout le monde me dit non, non, c'est pas la peine d'aller là-bas, il n'y a rien. Bon, je persiste. De stupide, je deviens, ou j'ai fait preuve, après avoir été stupide, d'une ténacité exemplaire. C'est ce que j'ai pu lire dans la presse déchaînée. Mais tout le monde est toujours concentré en Afrique orientale ou en Afrique australe. C'est grand, hein, le continent africain. Il y a de la place. Hein. Beaucoup de place. Bon, enfin, no comment. J'insiste pas là-dessus, regardez, la partie gauche est ancienne, mais historique. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, d'ailleurs. La partie droite, c'est la partie paléontologique, c'est tout simplement pour montrer que la paléontologie met en évidence qu'à un moment donné, il y a plusieurs espèces humaines qui peuvent coexister, humaines ou préhumaines. Et que, dans le fond, on n'est plus que tout seul, il n'y a pas si longtemps que ça, quand les Néandertaliens nous ont quittés. Voilà. Alors, si réellement ils nous ont quittés, parce qu'on est à une époque où on parle beaucoup de métissage. Ce qui m'étonne d'ailleurs dans le métissage dont on parle, c'est que on n'a pas de chance, ou alors on est vraiment plus mauvais encore que je ne le pense. On ne trouve pas de fossiles métissés, quoi. On devrait, au bout du compte, mais on n'en trouve pas. Alors, comment sait-on sur la branche où on est ? Ma collègue a parlé de dichotomie, d'ancêtres communs, population ancestrale. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que Toumaï, on puisse dire, il est sur cette branche-là plutôt que sur telle autre ? D'ailleurs, on discute, et c'est encore discuté, si moi, avec d'autres, pensons qu'il est sur la branche familiale, d'autres pensent qu'il est plutôt chez les gorilles, auquel cas je suis le seul avec mon groupe à posséder un gorille bipède, ce qui est intéressant en soi. Alors, un des caractères, c'est le caractère de la denture. Chez les grands singes, la denture est de ce type. Vous avez deux grandes canines, comme chez votre chat, comme chez votre chien. Vous regarderez en rentrant chez vous, vous n'avez plus deux canines comme ça. Si vous avez deux canines comme ça, c'est intéressant. On fera des photos, on peut faire une publication. Si, si. Vous séquencerez, je ferai la partie anatomique, je ferai la partie génétique et on signera au moins à trois. Chez les humains, c'est comme ça. Alors, on part d'un complexe canine supérieure, prémolaire inférieure, qui est dit, dans ce cas-là, aiguisoire. C'est un complexe tranchant pour passer à quelque chose qui, cette fois, appartient à la famille humaine. Vous n'avez plus les grandes canines. Vous avez opposition et ce complexe CP3 devient broyeur. On a, ça correspond à un changement de régime alimentaire. En bas et à droite, ici, vous avez les canines supérieures et inférieures de Toumaï avec les bonnes traces d'usure au bon endroit qui appartiennent à ce complexe-là. D'accord ? Alors, dans notre histoire maintenant, le berceau, la probabilité que ce soit l'Afrique est plus forte que toute autre probabilité dans l'état actuel de nos connaissances. Le premier Australopithèque décrit a été trouvé en 1924 et a été décrit en 1925. Et c'est en 1925 qu'a été créé Jean Australopithecus en Afrique du Sud. Il provient de la carrière de Taong ici, le numéro 1. C'est, à mon sens, la première pierre angulaire de notre histoire historique. Bon, bien sûr, après, c'est Lucie. Parce que tout le monde connaît Lucie. Si vous allez dehors, là, et que vous interrogez les gens sur le trottoir, si vous faites, alors, comment on appelle ça? Un micro-trottoir, c'est ça, je crois, hein? Tout le monde connaît Lucie. Tout le monde connaît Lucie. Tout le monde. Absolument tout le monde. Eh bien, en 1974, on a pris conscience que les chercheurs, vous, tout le monde a pris conscience que probablement, quelques années quand même après Darwin, hein, c'était 1871, lui, on a pris conscience, comme lui, que bah, probablement notre origine était africaine et que nos racines étaient profondes dans le temps. Lucie, 3 millions d'eux. Alors, sur le micro-trottoir, quand vous demandez Lucie, vous répondez, les gens vous répondent, « Eh oui, bien sûr qu'on la connaît, c'est la grand-mère de l'humanité ». Retenez ce mot, la grand-mère de l'humanité. Bon, après, on a dit, bon, les plus anciens sont en Afrique orientale, donc sûrement c'est l'Afrique orientale qui est berceau de l'humanité. Et puis, à l'ouest du Grand Rift africain, bah, on trouve encore les singes, ça doit être le domaine des singes, ça doit être le berceau des singes. Ça jusqu'en 1995, où on trouve un Australopithèque au Tchad. Ce qui montrait que bah, c'était plus compliqué qu'on le pensait. Mais c'est toujours comme ça. Hein. Heureusement d'ailleurs, ce qui en fait le charme. Hein. Abel, 3,5 millions, c'est le début d'une nouvelle aventure scientifique qui s'est poursuivie par la mise au jour en 2002 de celui qui est encore pour le moment le plus ancien connu. de notre famille. Toumaï. Il faut encore, bien sûr, trouver d'autres choses, beaucoup d'autres choses. Dans quelques jours, je vais retourner, je serai dans le secteur de ce jeune homme de 3,5 millions d'années. Au milieu du Sahara méridional. Voilà comment se présente ce que l'on sait en fossiles des plus anciens, 7 millions d'années, jusque à l'apparition des sapiens. Mais bon, vous savez tout ça. Quelques images de ce que je fais depuis 25 ans au Tchad avec mon équipe. On a trouvé quelques fossiles, vous voyez, quelques nouveaux sites. Il reste beaucoup à faire. C'est un endroit merveilleux, c'est un désert de dunes. Il faut beaucoup de voitures en bon état. C'est ce qui vous retient à la vie. Eh oui, quand vous êtes à 800 km au nord de N'Djamena, vous ne rentrez pas à pied. Hein. Non, non. Donc, il vous faut des voitures, de l'eau, du gazoil. Ah, oui, je suis navré, oui. Mais on fait plus de kilomètres avec du diesel qu'avec de l'essence. Et des dattes séchées. Si, encore autre chose. Des petits citrons verts pour éviter les carences. Quand vous êtes paléontologue et que vous êtes rendu à 800 km de N'Djamena, vous rentrez dans cette zone verte-là, qui s'appelle le bassin du lac Tchad. C'est votre terrain de jeu. C'est merveilleux, non? Et ce terrain de jeu, il fait 2,5 millions de kilomètres carrés. C'est tout petit, non? Et quand on y arrive, on ne mesure pas vraiment que dans 2,5 millions de kilomètres carrés, on cherche des objets dont certains sont centimétriques, mais dont d'autres sont millimétriques. Alors, toutes celles et tous ceux qui veulent aller jouer là, il faut bien avoir conscience de ça. Il ne s'agit pas d'y aller pour trouver. Ça peut durer plus longtemps que ça. Le Sahara est un désert intermittent. Tantôt désert, tantôt lac. Et vous avez là, en noir, la bordure du dernier grand lac Tchad, il y a environ 5000 ans. À l'heure actuelle, on est en période de basse eau. Le lac Tchad, c'est 10-15 000 km². Il y a 5000 ans, c'était 400 000 km², c'est-à-dire la Caspienne actuelle, en eau douce. Hein, en eau douce. Je me souviens avoir rencontré, pour des problèmes de visa, quelqu'un dont vous avez entendu parler, qui s'appelait le colonel Kadhafi, à Sirte, dans son repère. Et je lui avais expliqué qu'à l'époque de Toumaï, on pouvait aller de N'Djamena à Sirte en pirogue. Ouais. Et je me souviens, il avait eu une réaction extraordinaire. Il s'était levé, il m'avait dit « Quand la prochaine fois ?» Et là, après, quand j'ai eu donné ma réponse, « Je ne sais pas », il a trouvé vraiment que j'étais mauvais. Très mauvais. Voilà, je vais aller vivre ça dans quelques jours. La prochaine fois, s'il y en a qui sont intéressés, vous inscrirez. C'est épouvantable pour les géologues, tout est plat. Il n'y a pas de tectonique depuis 500 millions d'années. Donc tout est plat pour les géologues. Il faut faire son trou quand on est géologue. Pour avoir des coupes. Voilà. Encore. Ça, c'est quelque chose de encore plus particulier. Si vous voulez trouver des choses, par exemple, de type dendrongeur, vous n'avez pas le choix, hein. Il faut balayer le désert. Il y en a encore à balayer, hein. Ça marche. Vous tamisez, vous voyez, c'est-à-dire que les jours où il n'y a pas de vent, comme ça, vous arrivez à avoir de la poussière comme s'il y avait du vent, et on trouve des rongeurs. On trouve des petites dents qui sont de l'ordre du millimètre. Environ tous les 100 tonnes tamisées, vous avez un reste d'hominidés qui n'est pas forcément déterminable. 100 tonnes, ça va assez vite. Un quartz, c'est 2,8 de densité. Donc, mais enfin, après les fossiles, il faut regarder en labo, que ce soit N'Djamena ou en France. Voilà les fossiles, crocodiles, tel qu'est ce crocodile-là, festonné comme ça, c'est un crocodile ichthyophage. Il mange des poissons. Il y a beaucoup de poissons, beaucoup. Ça, avec un nom aussi bizarre, Libicosaurus, c'est un mammifère, et pas un saurien. C'est un cousin des hippopotames. Et comme les hippopotames, il est potamophile. Et Libye, il a été trouvé en Libye la première fois. C'est quelqu'un qui vivait, enfin c'est un animal qui vivait, pardon, en même temps que Toumaï, qui était potamophile et qui m'a permis de dire à l'homme que j'avais rencontré qu'on pouvait aller en pirogue des Tchadiens actuels aux Libyens actuels, de N'Djamena à Sirte. Il y a des gros sangliers, sont énormes, un crâne, mâchoire, et vous avez ici une troisième molaire de l'ancêtre de l'éléphant d'Afrique actuel. Tout ça, pour le moment, dans un contexte chronologique qui se situe entre moins 3 et moins 7. À propos de cette chronologie, puisqu'on parle beaucoup, et j'ai bien compris, on m'a invité là pour que je parle de chronologie. Au Tchad, pour le moment, c'est-à-dire les 25 dernières années, on n'a fait que ça. Et volontairement, j'ai choisi de faire la partie basse. C'est un choix. J'aurais pu choisir de faire la partie haute. Mais on a daté l'ensemble. Et on a des datations qui vont jusqu'à 10 000 ans. Il y a des fossiles en plus, plein. Plus d'ailleurs, plus vous remontez dans le temps, plus vous trouvez de fossiles. Ça va commencer maintenant. je terminerai sûrement pas. Mais enfin, l'équipe terminera. Et donc, il y a encore beaucoup de travail à faire et beaucoup de choses à découvrir. Beaucoup. Beaucoup. Voilà le premier de l'Ouest, 3,5 millions. C'est très bien conservé, hein. Les scans vous donnent des choses absolument extraordinaires. Hein. Regardez, dans cette canine, dans la cavité pulpaire de cette canine, vous avez là un pulpolite. Ce sont des choses qu'on connaît. Et vous avez peut-être eu ce genre de désagrément que vous avez fait soigner chez votre chirurgien dentiste. Les prémolaires ont trois racines, ce qui est un caractère ancestral, généralement en moyenne, vous n'en avez plus qu'une, deux, très rarement trois, très rarement trois. Cette canine, la voilà, incisiforme, votre canine est comme ça, elle suce par la pointe, elle est très différente de celle. Elle n'est pas en croc. Hein. À la hauteur des incisives. Bon, là, il y a une crête linguale bifide. Vous regarderez tout à l'heure en rentrant chez vous. Là aussi, si vous voyez sur votre canine une crête linguale bifide, on fait une photo et on publie. Mais ça m'étonnerait. Voilà en reconstitution 3D à l'avant la mâchoire dite Abel, 1995. Voilà ici à l'arrière la suite de la mâchoire d'Abel. Regardez, regardez là, regardez le trou montonnier. Il y en avait la moitié sur la mâchoire d'avant, la moitié sur la mâchoire d'après, et celle-là a été trouvée en 2012, c'est-à-dire 18 ans après. Non, pas, si, oui, 18 ans après. Simplement pour vous indiquer que même dans 2,5 millions de kilomètres carrés, quand on cherche avec sérieux, vous voyez, on a 18 ans après trouvé la suite de la mandibule. Non, non, parce que j'ai beaucoup de collègues, par exemple, des mathématiciens, des botanistes, qui me disent « Tu as quand même trop de chance, quoi, hein ? Tu t'en vas en vacances régulièrement dans le désert. » Quand j'en invite, il y en a peu qui viennent. Hein. Et il y en a beaucoup qui disent, bah ouais, quoi, tu te promènes dans le désert, tu donnes un coup de pied dans un caillou, puis de temps en temps, il y en a un qui se révèle être un fossile. Intéressant. Vous voyez ? C'est simplement pour vous montrer quelques nuances. J'aime beaucoup cette image. Les points bleus sont les australopithèques. On a trouvé les premiers points bleus en Afrique du Sud. On a trouvé beaucoup de points bleus en Afrique orientale. Comme les points bleus étaient les plus anciens étaient en Afrique orientale, on a dit, voilà, les uns sont nés en Afrique orientale, les autres, les singes, en Afrique occidentale. Eh bien, avec mon équipe, on a planté ici un point bleu. Et je compare volontiers ça à ce qu'a fait Neil Armstrong quand il a été sur la Lune. Quand il a été sur la Lune, il a mis un fanion, il a mis un drapeau. Eh bien, nous, on a fait pareil. Quand il a mis ce drapeau sur la Lune, il ne connaissait pas la Lune. Eh bien, nous non plus, hein, on ne connaît pas l'Afrique. Vous vous rendez compte de ce qu'il reste à faire en Afrique ? Vous vous rendez compte ? Et tout le monde est concentré là et là. Vous imaginez ce qui reste ? Ceci devrait conduire à beaucoup plus de prudence dans nos conclusions. Souvenez-vous ce qu'a dit Darwin. Je vous ai montré au départ, et c'était lui en 1871. Bon, voilà Toumaï vu selon son meilleur profil. Oui, c'est vrai. Oui. C'est pas un profil de, c'est pas un plan anatomique normal. Il a fait là comme vous faites quand vous allez faire une photo chez le photographe. Vous essayez de trouver le meilleur profil. Ça a dérouté beaucoup de gens, cette image. Bon, voilà une mâchoire inférieure de Toumaï, voilà sa canine inférieure. Et à partir de là, avec les images 3D, on peut se permettre n'importe quoi, simplement pour vous montrer, regardez la canine. Il a une toute petite couronne, la voilà ici, mais regardez la racine. C'est un bel exemple d'évolution, dite évolution en mosaïque sur un individu donné, les divers, là en l'occurrence sur un organe donné, une canine, eh bien tout n'évolue pas à la même vitesse. La couronne a évolué plus vite que la racine. La couronne s'est complètement réduite, mais la racine est, comme vous pouvez le constater, importante. C'est-à-dire que la canine, elle n'est pas là pour faire de la figuration. Elle sert. Imaginez, hein, si vous aviez une canine avec une racine comme ça. Bon, c'est la même chose. Voilà la canine inférieure de Toumaï. Quand je vous disais qu'il s'agissait du meilleur plan, vous voyez s'il était déformé, s'il est déformé. Alors, ben, on a fait... On peut tout faire, hein. On a déconstruit le crâne, on l'a reconstruit. Et voilà ce que ça donne. Le voilà, la forme qu'il avait à sa mort. Voilà cette reconstruction. Si, selon la même méthode, vous prenez un gorille et un chimpanzé, et si vous essayez de transformer Toumaï en gorille ou Toumaï en chimpanzé, les gorilles sont en rouge là, les chimpanzés sont en vert, eh bien, vous voyez que le crâne de Toumaï, à certains endroits, il s'éclate, à d'autres endroits, il se chevauche. La conclusion, c'est que morphologiquement, c'est ni un gorille, ni un chimpanzé. Ce qu'on savait avant, mais bon. Si vous regardez, vous posez la question, est-ce que le crâne permet de dire si il est bipède, caractère humain, ou pas. Si c'est un singe, s'il est sur l'autre branche, il est quadrupède. Le plan du foramen magnum, c'est-à-dire le trou par lequel sort la moelle épinière, et le plan orbitaire, chez un chimpanzé commun, vous voyez, forme un angle aigu, très aigu. Chez l'homme, c'est un peu plus ou autour d'un angle droit. Ce que l'on retrouve ici chez un Australopithecus africanus, qui est cet Australopithecus africanus qui vient de Sterkfontein et qu'on appelle Mrs. Pless, Vous voyez, c'est à peu près droit. Chez Toumaï, c'est aussi à peu près un angle droit. C'est-à-dire que vous avez une bascule déjà de la région occipitale qui a commencé. On a reconstruit le moulage endocrânien de manière séparée de la reconstruction du crâne. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que quand on a voulu mettre la reconstruction endocrânienne dans le crâne reconstruit, ça marchait. Donc, bon, il ne doit pas y avoir tant d'erreurs que ça. Et les caractères intéressants sur ce cerveau, mais on n'est pas là pour en parler. Néanmoins, vous avez un début pardon, d'élargissement des lobes frontaux, qui est quelque chose qu'on signale habituellement chez le genre homo. On s'en sert pour... Ben, ça se fait sûrement plus tôt qu'on ne le pensait. Voilà les reconstructions. Ça, c'est une photo que j'ai prise dans Okavango, au Botswana. Et je pense toujours, pour ceux qui m'ont déjà, et celles qui m'ont déjà entendu, je n'ai pas changé d'avis, je pense que l'Okavango, c'est un milieu mosaïque qui donne une bonne idée de ce qu'était le milieu de notre origine. Alors, j'ai peut-être un peu évolué, je ne suis pas hostile au fait de penser. À l'heure actuelle, on connaît trois formes dans le miocène terminal. Entre 6 et 7 millions d'années, on a décrit trois formes. Une forme a été décrite au Kenya, Aurorine, par un groupe franco-anglais kenyan. Une autre forme a été décrite par un groupe américano-éthiopien, Ardipithecus. Le leader du premier groupe est au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, c'est Brigitte Senu. Le second groupe en Éthiopie, le leader est le professeur Tim White de l'Université de Californie à Berkeley. Le troisième, le plus vieux, c'est Toumaï. Quand on regarde les faunes qui sont associées à ces trois formes, il est clair que Ardipithecus est lié à une faune de forêt. Il est dans un milieu forestier. Dans ce paysage mosaïque de l'Okavango, vous avez des milieux comme ça. Quand vous regardez la faune qui est associée à Aurorine, c'est un milieu qui est moins boisé que celui d'Ardipithèque, mais c'est encore très boisé, mais moins. Vous avez des zones ouvertes. Quand vous regardez la faune associée à Toumaï, à ce sujet, je voudrais souligner qu'entre le moment où on s'est rencontrés la première fois, pour certains d'entre vous, et maintenant, on a multiplié l'assemblage phonique associé à Toumaï, on l'a multiplié par 3. On connaît maintenant une centaine d'espèces associées à Toumaï. Les rongeurs ne sont pas décrits encore, c'est-à-dire qu'on arrivera autour de 120 espèces. Ce qui en fera, pour 7 millions d'années, un des plus beaux et des plus complets assemblages phoniques connus. Eh bien, cet assemblage phonique indique certes la présence d'arbres, mais aussi la présence de prairies. Une telle chose sera confirmée, c'est en cours, par une étude isotopique. Moi, j'aurais assez tendance à penser que, dans le fond, on était dès le départ opportuniste. On l'est resté, hein. Mais alors, je ne sais pas, ça a peut-être changé parce que mon collègue et ami de Berkeley, Tim White, a écrit quelque part que ces trois formes ne faisaient qu'un genre, Ardipithèque. J'ai écrit qu'il était bien trop tôt pour le dire et le savoir. Alors, quand j'étais étudiant à la Sorbonne, j'ai appris, mais ça a peut-être changé, que quand on est... S'ils sont la même espèce, ils occupent la même niche écologique. Si on occupe des niches écologiques différentes, on peut se poser des questions. Bon, j'en suis là à faire à suivre. Alors, anecdote, les primates dont je vous parle, les préhumains dont je vous parle, ceux du Miocène supérieur, sont bipèdes, arboricoles. Quand vous voyez l'assemblage phonique qui est associé à Toumaï, vous comprenez pourquoi ils sont arboricoles. À l'heure actuelle, nous avons décrit dans la faune de Toumaï 23 espèces de carnivores. 23 espèces de carnivores. Ça implique qu'ils avaient à manger, hein, sur place. Et au sein des 23 espèces de carnivores, il y a 7 espèces qui sont des félins à canine supérieure en lame de sabre. L'une d'entre elles a la taille d'un tigre de Sibérie, de l'ordre de 500 kilos. Quand vous avez des voisins comme ça, il n'est pas inutile de savoir grimper rapidement aux arbres. Non, mais on peut arriver, j'insiste, je me permets d'insister sur ces choses qui paraissent évidentes, mais qu'on oublie parfois. Je reviendrai, permettez-moi de le faire ainsi, à ce que disait Darwin. En 1871, il est utile d'avoir des fossiles. Ça permet d'éviter de dire des choses qui ne vont pas bien après. Vous voyez, avec mon équipe, on a planté un drapeau bleu, un drapeau rouge. Mais ce n'est pas pour ça qu'on sait. Hein. Je dirais même plus, on sait qu'on ne sait pas. Néanmoins, c'est comme ça. Alors, pour revenir à une histoire de datation, forcément, la datation qu'on a, 7 millions est, je pense, relativement fiable. C'est une datation au beryllium, beryllium 9, beryllium 10. Ça veut dire qu'à 7 millions, la séparation est consommée. Alors, la population ancestrale, je ne sais pas. Comment voulez-vous que je sache? Comment voulez-vous? Ce que je peux vous dire, puisque, Molly, vous avez abordé ces questions, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, je pense avoir trouvé des niveaux où on pourrait mettre au jour des restes de chimpanzés. Je donne de ma modeste personne pour essayer d'en trouver. J'en ai pas encore trouvé, mais je crois avoir déjà les niveaux. Ça serait bien utile d'en voir. J'ai des niveaux qui commencent à partir de 20 millions d'années, ça va bien. Où c'est ? Au Cameroun. Au Cameroun. Si on remonte un peu dans le temps, vous avez évoqué cette séparation des anthropoïdes. Je pense aussi avoir des bons repères et des raisons indépendantes de ma volonté, qui sont des raisons politiques en Amérique du Sud. Je travaille avec les Chiliens. Les Chiliens viennent de changer de président de la République. Je connaissais Madame Bachelet. Je ne connais pas le nouveau. Donc, il faut que les choses se mettent en place. Mais je pensais autrement aller... J'ai monté, d'ailleurs, j'ai préparé une mission en Patagonie. Je pense qu'on devrait trouver 40 millions d'années. 40 millions d'années. À l'heure actuelle, on a le plus ancien fossile sud-américain, c'est autour de 25 millions d'années. Mais on devrait trouver autour de 40 millions d'années. À mon avis, pour les primates, ce qu'on a pour le moment de plus ancien, dans mon groupe, ce qu'on a trouvé de plus ancien pour le moment, c'est en Asie. Et en Asie, entre le Myanmar et la Thaïlande, on est autour de 50 millions d'années. Autour de. Personnellement, je pense, mais ce n'est pas de la science, que les phylogénistes moléculaires sont revenus à des propositions qui me paraissent plus en adéquation avec la paléontologie et que leur date de 6 millions d'années, qui a été là pendant beaucoup de temps et qui obligeait Toumaï à des relations incestueuses pendant au moins un million d'années. Bon, je pense que ça va dans le bon sens, quoi. Ça va dans le bon sens. Je pense aussi qu'il ne faudrait pas, et vous avez souligné cela, aller trop loin. Il faudrait marquer des limites. Moi, personnellement, il me semble que Toumaï à 7, allez, si on fait un 7-9, ça me paraît raisonnable. Raisonnable. Mais la raison n'est pas ce qui... Bon. Ce qu'il faut, bien évidemment, c'est continuer à chercher des fossiles, c'est d'essayer d'avoir des fossiles, et il ne faut quand même pas oublier que à l'heure actuelle, dans l'état actuel de nos connaissances, l'étalon du temps, c'est le fossile. C'est le fossile. Jusqu'à plus ample informé, c'est le fossile qui marque le temps de manière la plus fiable. Donc, il faut continuer à chercher. Et on trouvera, si on cherche, si on ne cherche pas, on ne trouvera pas. Et je renverrai pour conclure, parce que ça me semble être plein de bon sens, à ce que Darwin a écrit au départ, avant de trop, au lieu de trop spéculer, il vaut mieux d'abord avoir des fossiles. Et je sais bien, je comprends complètement cela, parce que c'est notre histoire. Tout le monde veut connaître tout de la première à la dernière page. Mais on ne peut pas raconter notre histoire avec... Non, ce n'est pas possible. Je me souviens dans cette maison avoir fait une année et un cours qui était ce que l'on sait, ce que l'on croit savoir, ce que l'on ne sait pas. La partie la plus importante était... ce que l'on ne sait pas, la partie la plus petite était ce que l'on sait. Ce que l'on croit savoir, c'était aussi important. Mais il faut faire du terrain. Alors, j'ajouterais que pour faire du terrain, je m'adresse là aux jeunes, il faut faire du terrain, il faut... La période n'est pas très favorable politiquement, c'est vrai, pas du tout. C'est difficile, là je vais partir dans le Sahara, et pour y aller, je vais partir avec des soldats. Ce qui, pour ramasser des os fossiles, n'est quand même pas extraordinaire, quoi, hein. Mais bon, ça va sûrement s'améliorer, il faut être optimiste. Il faut faire du terrain, il faut avoir, à mon sens, des collaborations et des collaborations plus serrées et des échanges plus serrés que ceux qui existent à l'heure actuelle entre ce qui est moléculaire, disons, ce qui est ADN ancien et fossile. Je pense que c'est important. Je pense qu'il y a des échanges, que les échanges seront importants et fructueux. Pour le reste, sûrement à bientôt quand on aura résolu tous ces problèmes. Merci. Et naturellement, si vous avez des questions, pour essayer d'y répondre.